La cité de l'Abbaye, à Grenoble, c'est une quinzaine de bâtiments qui bientôt fêteront leur centenaire. Pourtant, rien ne présageait qu'ils passeraient ce cap. Quand des pathologies structurelles sont diagnostiquées en 2011, les locataires sont progressivement relogés par le bailleur social, dans la perspective d'une tabula rasa, permettant de relancer un nouveau cycle immobilier. Mais il en faut du temps pour reloger plus de 200 familles. Près d'une décennie, pendant laquelle les volets se sont fermés un à un, mais les esprits se sont ouverts. Progressivement, le maintien de la plupart des bâtiments s'est imposé comme une évidence. C'est le témoignage d'un changement d'époque, mais aussi d'une démarche de projet qui a su instiller un doute créatif en posant des questions simples mais essentielles. Pourquoi démolir ce qui fonctionne? Que peut-on faire de mieux à la place? Le problème patrimonial du bailleur est progressivement devenu un enjeu urbain, puis un projet urbain, aux contours encore un peu flous. Car garder l'existant, c'est accepter l'incertitude, assumer le bricolage et se lancer dans l'aventure sans connaître la fin de l'histoire. C'est aussi prendre le temps, mais sans laisser du vide. Puisque le quartier est vivant, le projet doit respecter les dynamiques qui existent, et même en initier de nouvelles. L'occupation temporaire de l'îlot central s'est donc imposée comme un outil de préfiguration des usages futurs. 5 dispositifs très différents occupent donc les lieux pour 3 ans. Aide aux jeunes migrants, ateliers de réparation de vélos, résidences d'artistes, reconditionnement d'ordinateurs, locaux de gestion des services civiques. L'ensemble est animé par une gouvernance partagée, associant les pilotes du projet urbain, les occupants et les riverains. Alors, inutile de chercher à tirer de grandes généralités d'un projet aussi fin, aussi contextuel, tissé pas à pas. À part peut-être que structurer une démarche transitoire demande d'y consacrer du temps. Beaucoup de temps. Quitte à accepter de ralentir parfois le projet urbain. Mais si tout était allé vite, il ne resterait rien de la cité. Peut-être faut-il prendre le temps de laisser mûrir les projets au contact des usages. Et si même, fallait-il ralentir? Alors allons visiter la cité de l'Abbaye en compagnie de Nicolas Quentin, chef de projet pour la ville de Grenoble. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui explore la nouvelle fabrique des territoires. Retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net.
Une ville en pleine expansion.
Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle?
C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain.
On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones.
And perhaps the defining trend of the 21st century is population growth.
On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité.
Chaque échec qui va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès.
Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense.
Ce plan est un plan que le public nantais peut venir voir.
Il s'agit du plan de sauvegarde, non?
Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution.
On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise.
On va commencer ici puisque Pascal nous a emmené là. C'est pas mal parce que on est bien dans ce qui est en train de changer. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc je me présente, je suis Nicolas Quentin, je suis architecte urbaniste et notamment chef de projet à la direction d'urbanisme et aménagement à la ville de Grenoble. Donc chef de projet Abbaye sur l'opération d'aménagement et aussi le projet d'urbanisme transitoire qui y est lié. Avec nous, donc moi j'ai participé aux universités d'été avec Nicolas Tixier qui va nous accompagner en ami de l'Abbaye puisqu'il fait partie du groupement d'études, non pas en tant que chercheur pour le coup, on en parlait à l'instant, mais via sa casquette bazar urbain, donc plutôt sur la concertation, voilà c'est ça, depuis 2016. Et puis Pascal Dobias qui est le directeur de la Maison des Habitants juste à côté. Et donc ça fait bien le pendant sur tout ce qui est animation territoriale et ancrage territorial, et notamment dans la partie transitoire, puisque c'est au moins bicéphale, si ce n'est multicéphale, j'allais dire cette hydre, mais non, c'est trop péjoratif. On aura l'occasion d'en reparler, c'est un vrai sujet par rapport à ce qui nous a animé notamment hier, sur la question de la participation, pour le coup du pouvoir d'agir, moi, je pense qu'on est vraiment là-dedans sur l'abbaye. Donc ici, on est sur l'abbaye, Nicolas la détaillera tout à l'heure, mais c'est presque 100 ans d'histoire. On espère que quand on aura fini de réhabiliter, puisque c'est surtout de la réhabilitation, au final, c'était pas gagné, d'ici à peu près 5 ans, finalement, l'histoire fait que ça aura 100 ans. Les premières réflexions, c'est 1927, les premières réalisations, 1929. Et on est dans un vrai morceau d'histoire urbaine et d'histoire sociale de Grenoble, puisque on est dans le mandat de Paul Mistral à l'époque, qui a fait exploser la gang militaire, notamment des derniers remparts qui avaient été construits en 1880 et qui enchâssaient encore Grenoble, ce qui est maintenant les boulevards en fait. Et puis il y avait tout ce faubourg en train de naître de façon totalement vernaculaire au-delà des murs. Et son mandat juste après-guerre a permis de faire sauter ce verrou et mettre un début de planification et de municipalisme, en fait. Et l'abbaye est, parmi d'autres, une des premières pierres qui met là-dedans. Donc on est vraiment dans cette étrave urbaine. À l'époque, jusqu'après-guerre ici, c'est la ville à l'assaut de la campagne, les maraîchers autour, la cuvette, forcément qui dit cuvette en montagne dit de l'eau au fond de la cuvette, donc... pas mal de ruisseaux, une plaine maraîchère, les endroits où les maraîchers venaient vendre aux limites de l'octroi. Ça, c'est l'image qu'on a jusqu'à 1950. Et puis après viennent d'autres opérations, on va dire des petits ensembles, dans les années 50, plutôt époque Abbé Pierre, 56, c'est la construction de Châtelet, de Cartanque, notamment dans ce qu'on appelait le million Lopofa, donc les logements pour les familles, construit à partir de 56 en réponse à l'appel de l'abbé Pierre. Et puis arrive après les grands ensembles de Jouot, de Tesserc, qui sont passés à pied, on y est passé. Et ça a composé un deuxième extension de la ville, plutôt après-guerre, et beaucoup plus marqué, logement social, planification. Mais là, on est à la jonction d'un quartier qui est à la fois vernaculaire, qui était ouvrier à une époque, enfin ouvrier, classe moyenne naissante, et qui est devenu un quartier de propriétaires, mais de petits propriétaires, de petites maisons qui prennent de la valeur petit à petit, et puis du logement social planifié. Et le quartier aujourd'hui, il a toujours cette couleur très très mixte de fait. On dit que c'est un quartier populaire, l'abbaye c'était les logements les plus bas de la ville, mais en même temps il y a aussi de l'activité, il y a aussi des équipements. Le municipalisme a emmené la MDH, le collège, le lycée, l'école, même une église, on est dans Camillo et Pépone. Et voilà, on a créé petit à petit ici un des rares centres de faubourg du sud de Grenoble. Il y a une place, il y a des équipements, il y a des logements pour tous, il y a tout ce qu'il faut pour faire de l'intensité urbaine, et dont on parlait tous ces deux jours, de l'hospitalité. À travers ce quartier a aussi été l'occasion d'accueillir la population tzigane, qui était déjà sédentarisée au centre-ville, mais qui a été, pour des raisons de curtage d'îlots en centre ancien depuis les années 45-50, très très marqué ici. Et puis aujourd'hui, on a de l'hébergement, d'urgence dans le transitoire, tout ça. Donc on est vraiment dans une tradition d'hospitalité et puis d'histoire en marchant, de patrimoine vivant. C'est là que je te passe le relais.
Non, mais c'est peut-être dit l'essentiel. Hein, donc c'est un quartier qui est vraiment ici, issu d'une volonté municipale depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, en fait. Puisque à la fois les HBM, c'était parmi les premiers en France et le premier à Grenoble ici en construction. Et puis, petit à petit, d'autres bâtiments. Donc là, il faut que vous imaginiez, quand ça s'était construit, on était au milieu des champs. Donc là, c'était des champs, là-bas, c'était des champs partout. À l'arrière de ces bâtiments, vous verrez qu'ils font des U, il y avait les lavoirs où les gens descendaient, lavaient leur linge, donc il n'y avait pas vraiment de salle de bain. Enfin, c'était pas. Voilà, on était. Voilà, et les premières constructions, les dates, c'est pas clair, c'est entre 1929 et 1930 sur l'ensemble des constructions. Et puis petit à petit, l'urbanité est arrivée autour, hein, la place, plutôt des maisons. Sur cette avenue-là, une école très forte, une piscine privée aussi. qui s'est appelée l'Abbaye les Bains et qui a fait la renommée. On se dit pourquoi c'est l'Abbaye les Bains, etc. En fait, c'est une piscine privée, mais que les gens payaient. Bains. C'est les premiers bains de Grenoble. Et puis vous avez un peu plus loin le Verderey, qui est une des rivières qui se jette dans l'Isère et qui était à découvert et qui servait à tout ce que la rivière servait à l'époque, en particulier aux artisans particulièrement, et qui aujourd'hui est recouverte et busée en fait. Mais il y a cette mémoire agricole et cette mémoire du Verderey.
Puis le petite industrie, enfin les débuts. De l'autre côté, on a le chemin de la blanchisserie, c'est pas un hasard. Il y avait le syndic. Il y avait un canal syndical sur lequel venaient se brancher l'ensemble des artisans du coin. Et comme par hasard, on retrouve une blanchisserie industrielle là qui a perduré de tout ça. Et les usines qui se sont installées au fur et à mesure ont disparu. C'est devenu de l'arrière des deux communes, Grenoble et de Saint-Martin-d'Air. Il y a ce renouvellement. Maintenant, c'est devenu entrée de ville. Mais il y a un ancrage au territoire et au sol de type... Faubourg en développement depuis assez longtemps finalement.
Donc là on a trois patrimoines en fait. Patrimoine urbain, vous allez voir c'est une forme urbaine absolument singulière et intéressante. Patrimoine architectural, on a des appartements qui ont des qualités qu'on n'arrive plus à reproduire facilement aujourd'hui. Et patrimoine d'ambiance, patrimoine social. Les trois cours dont a parlé Nicolas, d'un point de vue statutaire, c'est de l'espace public.
On a tenu à ce que ça reste, voilà. Aussi bien techniquement que politiquement. On est passé à côté de Tesserre, qui a été un des premiers exemples, et pour le coup réussi, sous la maîtrise d'œuvre de Philippe Panneret, de résidentialisation. Parce que là, on avait des bars, des aplats verts et des aplats de parking, et que la résidentialisation faisait sens pour hiérarchiser les espaces. Ici, ils se hiérarchisent par eux-mêmes. On a la place, on a le square, on a la rue, on a monté. Donc là, au contraire, on veut que ça reste... public parce que c'est fait partie du... Enfin, pour le coup, c'est du commun, quoi. Le commun, il existe déjà, et on veut peut-être affiner, actualiser, oui, renforcer leurs usages.
Il va très bien, quoi.
Il fonctionne.
Ouais. Voilà, donc c'est pas la peine.
Oui, il y a des effets pervers.
Des effets pervers, c'est le stationnement.
Voilà, ça, on retire le stationnement. On retrouve finalement comment c'était avant. Ah non, c'est jamais ça.
C'est compliqué. Ici, en fait, il n'y a pas de stationnement attaché au logement. Donc vous avez
52 à la base, 240 au final.
Qui ont zéro stationnement, attitré. Donc ils sont stationnés dans l'espace public. Donc si demain, comment demain on envisage le nombre de stationnements voilà. Peut-être dire deux mots sur comment on est arrivé à la situation. Tu veux qu'on dise deux mots comment on est arrivé à la situation?
Oui.
Donc en fait, plusieurs générations de personnes ont habité ici et... Il y a eu une petite restauration à la fin des années 80 avec l'installation de deux ascenseurs là où c'était possible. Mais vraiment, restauration...
C'est 78, c'est vraiment à mi...
Ah oui, 78.
C'est 50 ans après, et là on arrive 50 ans après.
Mais petite restauration. et grosso modo, ça se détériore, les loyers restent assez bas, etc. Et à partir des années 2005, ils commencent à se dire...
En fait,
il va falloir démolir...
On est à la grande époque... de la politique de la ville, de la montée en puissance de l'ANRU. Alors, je vais l'expliquer, justement. Sur Grenoble, il y a deux gros quartiers historiques qui font toujours partie du PNRU 2, pour le coup. C'est la Villeneuve, on est à Villeneuve Village Olympique, où on est au milieu. Mistral, que tout le monde connaît nationalement. Et puis, ce grand projet de ville, Grenoble-Saint-Martin-d'Air, avec un morcellement de plus petites opérations, plutôt 250 à 500 logements. À cheval sur les deux communes et avec pas d'identité globale mais qui participe de ces quartiers sud, comme on parle des quartiers nord de Marseille, on parle des quartiers sud de Grenoble. Donc il y avait ça, mais sans avec des phénomènes qui sont beaucoup plus de proximité ou de enfin, une échelle beaucoup plus micro et avec aussi plus de mixité aussi bien formelle, fonctionnelle, sociale, avec des vrais centres de quartier et autres. Donc ça s'est fait par petits bouts d'opération. Et l'abbaye étant plus complexe que l'autre, ça n'a jamais été jusqu'à une contractualisation avec l'ANRU. Problème de timing, d'objet, et aussi changement de paradigme aussi bien de l'État que de la société. Quand on arrive en 2010, quand le sujet commence à arriver sur l'abbaye en 2010, alors qu'à côté est engagé, on voit ici, c'est des immeubles, là pour le coup, récents, qui ont été livrés depuis 2014 à peu près, c'était le quartier du Châtelet. Donc 150 logements construits en 56, plutôt du carton-pâte, aucune valeur, peut-être pas patrimoine immatériel, si, puisque c'était les mêmes communautés, mais en tout cas ni architecturale ni urbaine. Aucun regret, y compris de la part des habitants, pour les démolir, pour le coup, entièrement.
Et reloger sur place?
Alors c'était un tiers sur place, un tiers dans le quartier et un tiers ailleurs, avec des chartes de relogement plutôt bien faites. Alors, toute proportion gardée, il y a toujours des choses à dire là-dessus, mais ça fonctionnait pas mal, et avec un droit au retour qui finalement a été très peu exercé, parce que les gens ayant recommencé autre chose ailleurs n'avaient pas envie forcément de revenir là-dessus. On a une petite opération qui marche plutôt bien, et puis finalement, dans l'idée de tout le monde, des pouvoirs publics, y compris de l'aménageur qui faisait ça, et du bailleur qui était le même propriétaire, c'était la phase suivante. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on... Ben voilà, on accuse son chien d'avoir la rage, quoi, pour pouvoir l'abattre. Donc vers 2011, Actis, le bailleur social, annonce à ses locataires qu'il y a des fissures, que ça risque de s'écrouler, mais que d'ici 2018, tout le monde serait relogé. C'est comme mettre une bombe dans une salle, forcément ça ne peut pas bien se passer derrière. Sachant que au final, il n'y a aucun risque ici. Si on est dans une zone sismique, donc à Grenoble c'est toujours un sujet. Mais si l'abbaye s'effondre, la moitié de Grenoble s'effondre. Ça, c'est ce qui a été prouvé par des études techniques et des études patrimoniales menées par Pierre-Antoine Gatier, notamment juste après. Donc pendant jusqu'à 2000, sous changement de municipalité à peu près. Il y a une lutte d'influence.
C'est vrai, ça
Oui. Que ça allait s'effondrer, non.
Oui, c'est la légende.
De toute façon, les fissures qu'il y avait, c'était des fissures d'enduit et pas des fissures structurelles. Et certes, il peut y avoir des bâtiments qui n'ont pas été construits selon les normes sismiques, mais comme la grande majorité de la ville. Donc c'est pas un sujet en tant que tel. Mais c'était une manière pour le bailleur social de préparer son renouvellement de patrimoine. Avoir un patrimoine neuf, avec des normes nouvelles et une capacité d'amortissement sur 50 ans, avec la logique en rue de financement de la démolition-reconstruction. Donc dans une logique de neuf et d'amortissement comme ça. Ici, pour plein de raisons, et en particulier celle que tu viens d'expliquer, l'historicité, le patrimoine à toutes les échelles, la question était beaucoup plus compliquée que ça, et elle a mis beaucoup plus de temps à accoucher, et heureusement. Heureusement, parce que pendant ces 10 ans, le regard aussi bien des institutions que des habitants, je ne sais pas si c'est un gros mot après les 2 jours, là, les habitants, des usagers, non, je ne sais pas, et des institutions locales, voilà, des indigènes, on en fait partie, les autochtones, voilà, des arpenteurs, a changé sur cette question énergie grise, pourquoi démolir ce qui fonctionne, surtout si ça a des qualités, pour faire quoi à la place, de toute façon on ne va pas densifier, c'est déjà assez dense, on verra l'espace et la qualité des pleins et des vides est très très particulière. Ce qu'il fallait arriver à faire, et c'est là que Nicolas et Particules sont arrivés avec un mandat d'étude au moment du changement de municipalité, on est arrivé, nous techniciens, à faire, et avec des métropolisations qui ont changé les organigrammes des services, on est arrivé à faire dire que ce n'est pas un problème de patrimoine immobilier du bailleur, c'est une question urbaine, déjà. Et c'est une question, est-ce que c'est un projet urbain, ou est-ce que c'est un projet de quartier, ou est-ce que c'est tout à la fois ? Dans la rue, on aurait un développeur territorial et puis l'urbanisme et l'action territoriale. Ici, on le fait par le projet urbain et le projet transitoire aujourd'hui. Ça veut dire comment, j'aime pas ce mot, mais par du bottom-up, on arrive à enrichir la multifonctionnalité, l'intensité urbaine, les usages, l'hospitalité du lieu, par le déjà-là, par ce qui s'y passe, parce qu'on pourrait y faire se passer, tester les choses, les évaluer, et en ce sens-là, ce projet, il est intéressant, et c'est du bricolage volontaire, empirique, pour non pas dérouler une grosse machine. Si on avait suivi les logiques de l'ANRU, ça serait fini depuis longtemps. Est-ce que ça serait mieux? Je ne sais pas, mais...
Et le changement de perspective, y a un changement culturel ces 10 dernières années, mais le changement de perspective, il arrive, c'est l'opportunité du changement municipal, c'est l'arrivée d'une équipe de maîtrise d'œuvre. Qu'est-ce qui fait que À un moment, on se dit, bah, finalement, ce machin-là, ça pourrait avoir une deuxième vie.
Techniquement, on était tous à peu près convaincus qu'il ne fallait pas démolir. À partir de 2016.
Donc les...
À partir notamment du recrutement, quand on a recruté une maîtrise d'œuvre, ouais. On a choisi une maîtrise d'œuvre dont le parti pris, y compris avec des historiens de l'architecture, tout ça, et dont le parti pris était de dire essayons de sauver le soldat Ryan.
Donc c'est un complot ourdi par des fonctionnaires territoriaux,
c'est
en
ça.
Recrutant.
Certains contre d'autres.
En recrutant une maîtrise d'œuvre avec un parti pris.
Je ne travaillerai pas le scénario de la démolition complète.
D'accord, voilà. Donc c'est alors vraiment un complot.
Mais le scénario, mais après c'était
en
sur
fait,
la table, c'est-à-dire
quel est le demandait d'étudier trois scénarios, hein, démolition complète, démolition partielle, démolition et pas de démolition.
Voilà.
Et on a répondu en disant qu'on n'étudierait pas la démolition complète.
Et on vous a choisi en parfaite connaissance de cause. Sauf que après, voilà, dans le jeu des instances, et puis même des élus qui n'étaient pas forcément convaincus de ça à l'époque. Et le maire de Grenoble, qui est toujours le maire de Grenoble, était aussi président d'Actis au mandat précédent. Donc il y avait une part de schizophrénie avec des choses qui étaient déjà lancées aussi dans l'idée, ben, on a un permis de on fait passer un permis de démolir en parallèle, on va essayer d'en démolir. Vous verrez, il y en a un qui a disparu. Parce qu'à un moment donné, c'est oui, mais pour convaincre l'État d'y aller et tout ça, on va faire peur en en démolissant un, hein, donc ils vont nous donner de l'argent pour rénover. C'est très très long, c'est des batailles. Enfin, quand on parle de co-construction, c'est au moins autant de co-construction institutionnelle. Avant même d'avoir des co-constructions. Et donc ça a mis longtemps à se discuter. Après on est arrivé à faire projet quand même, à avoir un projet qui soit désirable, qui mêle d'ailleurs la démolition des trois objets uniques, mais qui garde quatre bâtiments sur cinq, et qu'en reconstruise un, qui permettent aussi d'ouvrir un peu plus sur l'arrière, parce que, encore une fois, on avait une façade avant et puis une arrière-cour à l'origine. Donc ça, c'était un scénario qui est possible, qui est toujours envisagé d'ailleurs, même si on va laisser aujourd'hui la possibilité aux opérateurs qui vont reprendre de réhabiliter l'ensemble ou éventuellement d'avoir une toute petite part de démolition en plus, démolition-reconstruction. Mais on est arrivé à faire un scénario qui soit aussi bien du point de vue de la programmation que de la réponse patrimoniale que financière à peu près entendable, mais avec cette complexité justement de financer la réhabilitation, sachant que la réhabilitation est un peu moins chère. Mais quand même, on tourne à 1 200 € du mètre carré pour faire quelque chose de correct ici. Un peu moins cher que ça, mais pas amortissable. Donc il y a les aides de l'État derrière. Comment ? Et avec la position totalement ambivalente de l'État derrière, vous ne démolirez pas, mais on ne va pas vous donner de l'argent pour réhabiliter puisque vous n'êtes que label architecture contemporaine remarquable.
Peut-être juste expliquer que comme le bailleur avait déclaré l'insalubrité, il avait déjà, depuis 2010, mis en œuvre... l'expropriation, enfin le relogement des familles. Voilà. Donc quand il a été décidé que oui, les bâtiments seront rénovés, sauf peut-être trois pour des questions d'ouverture et aussi pour faire venir des investisseurs, eh bien, il restait plus que, je sais pas, 30, 40 logements occupés qui, eux, étaient déjà en cours même. Donc aujourd'hui, en fait, il en reste trois.
Il
n'y
en a plus.
Il n'y en a plus, voilà.
Donc, 2020, il y en a voilà. Plus, ça s'est
du coup, il s'est posé une nouvelle question. C'était le projet qui se fait sur un temps long. Comment gérer des bâtiments vides au centre de Grenoble ?
On savait qu'on était forcément sur un temps long. Que toutes les questions, finalement, on en parlait un peu ce matin. Je ne sais plus si c'est pas toi qui en parlais sur faire un projet qui ouvre le champ des possibles mais qui ne fiche pas tout. Il me semblait bien. Je m'étais préparé à rebondir dessus. C'est un peu ce qu'on a tenté de faire en établissant un plan guide et en concertant en 2018, de dire voilà l'horizon, on n'a pas toutes les réponses, on veut mettre de la mixité sociale, on veut rester sur des taux SRU de logements sociaux qui soient proches de ceux du quartier, à 35%, ne pas être tout en social ni tout ni plus rien, comme nous disait de l'occuper au départ. On veut mettre de la mixité fonctionnelle, on veut garder, donc on a mis une OAP dans le PLUI par exemple, on veut garder du patrimoine, on veut faire de ces espaces des espaces verts de proximité à l'intérieur. Ça c'est quelques grandes lignes, mais on n'a pas toutes les réponses. Et pendant ce temps où on arrive à monter toutes les réponses, il ne faut pas qu'on passe encore 5 ans, peut-être 10, parce qu'on ne savait pas justement financièrement comment y arriver, avec ce vide. Ce quartier, il a une intensité urbaine propre. C'est un morceau de patrimoine qui sera aussi du patrimoine demain. Donc c'est vivant. Il ne faut pas que ça meure entre deux. Donc on a monté Je ne sais pas si on a appelé ça directement urbanisme transitoire. C'était même à une époque où ça commençait à sortir de Paris, mais pas tant que ça. On a commencé à réfléchir à quels étaient les ingrédients qu'il fallait faire pour que ça reste vivant et que ça serve de temps de test, de temps de préfiguration et de temps d'infusion pour que le projet, au final, tel qu'il serait fait, ne serait pas le même que celui qu'on imaginait au moment où on l'imagine. Et il nous a semblé qu'il fallait de l'hébergement, mais pas trop, pour pas que ceux qui n'étaient plus là se disent « mais vous avez viré les pauvres pour mettre d'encore plus pauvres que nous ». Il fallait du culturel, du socioculturel, on a les deux, hein. Mais pas trop, pour pas qu'on soit en train de boboiser le truc, et puis une fois qu'ils seront partis, il n'y aura plus rien pour nous les pauvres. Et pas trop de pauvres non plus, parce qu'autrement, comment on va faire nous autour pour vivre dans le quartier, alors qu'on vient aussi d'acheter un tour et qu'on fait le pari que c'est un quartier mixte et pas qu'il est sur la bonne pente et pas en train de se dévaloriser et puis de dégénérer. Les espaces publics, mais en même temps, pas tout refaire tout de suite, puisque déjà on ne sait pas pour qui on le fait. Et puis on va pas faire quelque chose pour le recasser quand on va réhabiliter les immeubles, donc essayer de faire de la préfiguration plutôt et d'y mettre des usages qui permettent d'avoir par l'occupation de l'espace public une occupation des lieux, et pareil pour les bâtiments, un peu d'occupation des bâtiments pour éviter des mésusages, même si on a eu du squat du DAL, opportunisme qui nous a permis aussi nous d'être opportunistes là-dessus et de faire levier pour engager les politiques peut-être un peu plus qu'ils l'auraient fait ou un peu plus vite sur cet urbanisme transitoire. Donc, et puis on essaye aussi de mettre de l'activité, mais pour le coup c'est un peu plus difficile parce que on est quand même si on est dans une métropole, on n'est pas sur une échelle comme peuvent être Paris ou Lyon, et donc les choses se font un peu concurrence aussi les uns aux autres. Et si on commence à lancer comme on a voulu le faire de l'économie sociale et solidaire, et ben on sait qu'on va investir en blanc pour peu de temps, pour des gens qui ne sont pas encore là, qui ne seront pas forcément là. Donc la mayonnaise est... Pour le coup, la macénoine est complexe et la mayonnaise à réussir, il faut la faire au bon moment. Donc, on est dans cette phase, on est à peu près à mi-chemin du transitoire aujourd'hui. C'est le temps d'une évaluation de mi-parcours pour bien réussir, pour bien mener à bout ce qu'on a commencé à faire en termes d'action territoriale. Là, je vais te passer là-bas. Et en même temps, que ça ne retombe pas comme un soufflet, que ça puisse infuser derrière aussi... Et on commence à avoir des graines, des graines qui poussent. Ces graines de décroutage, la graine d'un centre de santé qui va se trouver sa place et qui va être une manière de répondre à la mixité fonctionnelle.
En gros, si vous préférez, il y a le projet urbain donc, qui se met en place. Et on se retrouve avec un projet d'urbanisme transitoire avec l'idée de se dire il faut que ça vive et que ça amène des choses pour le quartier ou pour les gens qui vont venir ici. Et on va pouvoir tester des choses. Avec un deal qui est posé dès le départ avec tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui vont arriver sur site, c'est un de se coordonner avec l'existant sur le quartier. Parce qu'en gros, le risque, il est quoi ? Il est que des personnes viennent, happent un petit peu toutes les forces vives du quartier, et que le jour où ils repartent, on ne sait pas comment trop gérer la suite. Avec une problématique, c'est que nous, on est juste à côté, hein, la maison des habitants, vous avez vu le bâtiment, on a plein de services sociaux. On galère depuis des années sur la question de la participation habitante parce que, en fait, naturellement, les gens ils vont pas se mélanger avec des personnes trop différentes. Sachant qu'on est passé d'une appellation centre social à maison des habitants avec un élargissement de l'offre, avec l'idée de renforcer le travail social, mais de s'ouvrir à tous les habitants et de se dire que n'importe quel habitant qui arrive sur le quartier, il peut pousser la porte et trouver des choses qui lui correspondent. Donc nous, on a un panel d'offres qui s'est élargi. Et nous, il y avait un enjeu fort de coordination avec les personnes qui arrivaient ici. Les personnes qui arrivaient ici, au-delà de l'idée de se coordonner avec l'existant, c'est-à-dire nous et puis toutes les ressources du quartier, il y avait un deal qui était simple, c'était qu'il n'y a aucune perspective à avoir au-delà d'un bail de 3 ans. Voilà. Ça, les gens, ils sont venus en connaissance de cause. Avec quand même, de manière sous-jacente, et là, ça rejoint la question de l'évaluation, de se dire, on sait très bien qu'il y a des activités qui vont venir. Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, quand le projet de réhabilitation se met en place, ils vont partir. Il y en a une deuxième partie, avec le temps, et ça, c'était lié au fait que le projet urbain n'était pas complètement défini de la suite, il y a une partie qui allait nourrir le projet urbain. Ça laissait le temps de la réflexion pour les collègues des services, pour les élus, de s'approprier des choses. dans ce cadre-là, typiquement, alors, il n'y a pas eu l'implantation sur site, mais sur la place à côté, il y a un centre de santé de l'autre côté de la place du marché qui est à l'étroit, ça fait des années qu'ils disent qu'il est à l'étroit, et bien, ils vont trouver un point de chute ici. Voilà, donc ça, c'est typiquement quelque chose où, en fait, ça a eu le temps de mûrir, et au final, on va avoir une sortie hyper positive. On a d'autres choses qui vont être testées. Typiquement, vous avez ici, alors je vous représente après vite fait hein, les différents îlots, mais sur une allée, vous avez un projet qui s'appelle Abri Jeune, un projet qui est porté par trois associations de solidarité, qui était de dire, on a des jeunes migrants qui arrivent en France, qui sont mineurs, ils ont une prise en charge par l'État, par les collectivités, arrivés à 18 ans, ils se retrouvent sans droit ni titre. Alors, il y en a certains qui n'ont pas terminé leur formation. On a 26 jeunes qui sont là, il y en a 24. L'an dernier, ils étaient encore en CAP, en BEP, en bac pro. Donc en gros, ils étaient dans un processus d'intégration complète. Et comme ils se retrouvaient sans droit ni titre, ils se retrouvaient à la rue, en étant en formation. Donc ces associations cherchaient un lieu pour tester l'idée de se dire, eh ben, ces jeunes, on les accompagne jusqu'au bout. On leur offre un hébergement à partir de l'âge de 18 ans. C'est quelque chose qui est testé ici. En évaluation, là où on en est aujourd'hui, c'est que le projet en tant que tel, il est pertinent. Par contre, l'accroche territoriale sur ABI, il n'a pas de sens. On n'a pas réussi. On a beaucoup travaillé avec ces jeunes-là. C'est des jeunes entre 18 et 25 ans. Une maison des habitants, le quartier de l'abbaye, ça ne fait pas sens pour eux. Donc demain, l'enjeu pour la ville, pour ces assos, c'est de dire qu'il y a quelque chose qui a été testé ici, qui fonctionne, mais qui devra peut-être trouver un point de chute ailleurs. À Mélan, à un autre bout de Grenoble, on ne sait pas. Donc de ce point de vue-là, ça c'est intéressant parce qu'on teste des choses. Il y a d'autres choses qui sont testées et au final, elles ne produisent pas. Mais il y a eu l'opportunité de le tester parce qu'il y avait des locaux vacants. Donc ça va s'arrêter de fait. Et puis, il y a des choses qui auront vécu ici. C'est le cas du collectif d'artistes. Hein. Là, on va les visiter tout à l'heure. Hein. Il y a toute une allée qui est donnée à un collectif d'artistes. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on bosse avec eux. Ils vont rester 4-5 ans. Il se passe des choses exceptionnelles avec les établissements scolaires, avec nous, avec les habitants. Mais on travaille très bien ensemble, on anime le quartier ensemble, ça a de la pertinence, mais cette histoire, elle s'arrêtera. Il n'y a pas de pertinence à ce qui reste derrière. Par contre, ça réinterroge plutôt d'un point de vue général, de dire, sur un quartier comme ici, d'avoir des collectifs d'artistes, une approche culturelle peut-être différente que la classique, ça a du sens. Donc, est-ce que ça trouvera un point de chute ici ou ailleurs? Enfin, il y aura peut-être des choses à imaginer. Voilà, je me suis un peu perdu dans les trois hypothèses. Tac, 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 ceux qui nourrissent. Ah oui, et puis si, il y en a d'autres. Typiquement, moi, je vais vous donner un autre exemple. On avait accompagné une initiative d'habitants qui disait la ville de Grenoble est découpée en 6 secteurs. C'est le seul secteur de la ville où il n'y avait pas d'atelier d'autoréparation de vélo. Voilà. Le vélo se développe à tour de bras et on se retrouve sur un secteur, si on prend Tesserre, là, le secteur 5, c'est 20 000 habitants à peu près. Il n'y a pas d'atelier d'autoréparation de vélo. Nous, on a accompagné cette initiative. Au début, dans nos locaux, c'était un peu galère, il fallait tout le temps qu'ils rangent et compagnie. L'urbanisme transitoire se met en place. Actuellement, ils ont investi une partie des locaux. La sauce, elle commence à prendre. La sauce, elle grandit, il y a de plus en plus de bénévoles. Ça trouve un usage auprès des habitants du quartier. Et là, en fait, il y a une question qui se pose aux élus, de se dire, c'est quoi la suite? Est-ce que la suite, elle va être sur le site ici? Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une suite sur le quartier. Et de ce point de vue-là, l'urbanisme transitoire, moi, je trouve que c'est d'une richesse mais exceptionnelle. Alors qu'au départ, on était un peu sceptiques, hein, parce qu'on voyait arriver plein de gens, ils zappaient un petit peu toutes les forces vives et tout. Donc nous, on passait notre temps à se coordonner, à dire, ça, on le fait déjà, ça, faut qu'on le fasse ensemble, ça, ok, et compagnie.
C'est bordélique au niveau, on n'a pas fait d'accord. Voilà. On a mis du temps à lancer les choses, parce qu'on a beaucoup travaillé dans l'ombre et dans le cambouis pour trouver les bonnes modalités, notamment juridiques. Parce que urbanisme transitoire, c'est une grande coquille. D'ailleurs, certains parlent urbanisme transitoire, urbanisme temporaire, urbanisme tactique. Tout ça, c'est des définitions qui se recoupent, qui se chevauchent plus ou moins. Ici, moi, je dis plutôt, j'aime bien le transitoire parce que justement, c'est des actions tactiques, même si pour le coup, j'aime pas ce terme parce qu'il est stratégique, tout ça. Mais on est sur des tests, des évaluations, tout ça. Des occupations précaires, donc des conventions d'occupation précaire. Et puis, comme le disait bien Pascal, l'idée, c'est bien de mettre en place, de tester, d'évaluer que ça infuse et qu'il y a des choses qui s'arrêtent, d'autres qui restent ou d'autres qui se transforment. Donc c'est pour ça que c'est de la transition, en fait. On est dans un morceau de ville qui ne sera pas pareil après qu'il a été avant et qui ne sera pas pareil que le projet urbain tel qu'on aurait pu le simplement le dessiner et le graver dans le marbre. Pour revenir à ta question, la convention d'occupation précaire est un élément clé. Alors, d'abord, il faut voir. Actis a vendu l'ensemble de ses bâtiments à l'EPFL pour sortir du jeu. L'EPFL porte pour plus de 2 millions d'euros les 14 bâtiments, puisqu'il y en a un qui est démoli et qui est donc resté foncier à part. Et derrière, nous, on va essayer d'équilibrer d'équilibrer autant que possible. Les aménagements d'espace public, c'est pas la peine, mais au moins sur le dépense-recette du foncier, c'est la ville, en revendant les bâtiments, qui va équilibrer cet achat et ce portage par l'EPFL. L'EPFL met à disposition soit à la sagesse qui est l'aménageur, soit à la ville via les bâtiments, la direction du mobilier municipal, pour certaines associations, pour certains hébergements, soit à la métropole qui a pris certains bâtiments et qui les a un peu rénovés pour faire de l'hébergement d'urgence. Chacun finalement prend les bâtiments, fait les investissements, prend à sa charge aussi les fluides, c'est une vraie question, et les assurances, et la gestion. Et pour tout ce qui est justement de l'hébergement ou du socio-culturel, sans aucune recette compensatoire en face. Si on fait de l'ESS, là, on pourrait avoir une indemnité et tout, mais sur le reste, on n'a pas le droit de faire ça, et on n'a pas la volonté politique non plus de le faire. Donc c'est vraiment de la puissance publique qui prend à charge en se disant, c'est de l'investissement d'attractivité, d'hospitalité, c'est de la politique publique pour que le quartier ne sombre pas et trouve sa couleur et son intérêt et son intensité urbaine par la suite. Donc les bâtiments EPFL passent aux porteurs de projets, métropole, ville, sagesse par exemple pour le socioculturel, qui lui-même redécline en convention d'occupation précaire avec un certain nombre d'occupants, avec comme mise à disposition de locaux qui sont aux normes pour une destination précise, avec une responsabilité de ces personnes, parce que c'est pareil, c'est du logement, mais ils vont faire de l'ERT, voire de l'ERP qui ne dit pas son nom, puisqu'on en reçoit des publics.
C'est de l'ERT officiellement.
C'est officiellement de l'ERT, mais en réalité, il y a des publics qui sont accueillis, donc on est toujours borderline, mais ça, j'allais dire, ça fait partie du permis de faire de l'urbanisme transitoire. Mais c'est très complexe du point de vue juridique, il faut faire quand même très très attention. Et derrière, donc, ces preneurs, justement, acceptent un certain nombre de responsabilités, y compris de garanties, d'assurance, et de petits travaux, de choses comme ça, pour leur propre compte à l'intérieur des bâtiments, sachant qu'on leur met à disposition gratuitement et forfaitairement concernant les fluides.
Après, sur la suite...
Et avec une fin. Ouais. Pour le coup, c'est pas négociable. Et il y a une charte globale qui encadre de ça, qui dit que l'une des conditions d'entrée, c'est un, on arrive pour une raison précise, pour faire des projets ensemble, avec les autres, donc avec des interactions, et pour une durée limitée.
Vous préférez ici sur la place. Alors à chaque fois, ces bâtiments-là, ils ne sont pas du tout utilisés. Et vous regarderez sur la partie nord, c'est celui qui a été détruit là-bas. Ça, c'est l'hypothèse quand Nicolas disait une partie, ils n'ont pas étudié la partie démolition complète, mais ce peut être que partielle. À chaque fois, ce qui est potentiellement prévu, c'est la démolition de ces bâtiments-là. Ils ne sont pas du tout utilisés dans le cadre de l'urbanisme transitoire.
Pourquoi les démolir? C'est une grande, longue histoire qui vient de la valse-hésitation, du modèle économique de l'ensemble. Et au final, on est arrivé à faire la preuve que démolir et reconstruire, c'est même du point de vue opérationnel, et les promoteurs qu'on a approchés dans un dialogue compétitif disent à peu près la même chose aujourd'hui, c'est moins rentable que de réhabiliter. Mais ça, c'est une réponse contextuelle. Et à un moment donné, la réponse n'était pas la même il y a 3 ans, et peut-être qu'elle ne sera pas la même dans 2. Donc on garde ça fait partie du deal de la consultation de promotion qu'on va ouvrir là, d'avoir la possibilité d'une réponse, mais qui doit être coordonnée. Laisser ouvert la possibilité de ça. Et puis du point de vue urbain et qualité urbaine et architecturale, c'est les moins intéressants. C'est 3 montées avec des appartements petits, 2 desservis par montée qui se referment sur eux-mêmes. En termes d'habitabilité des logements, c'est les moins intéressants. Et c'est ce qui referme le plus par rapport au quartier derrière. On passera peut-être tout à l'heure par la rue derrière, on voit qu'on a un vis-à-vis qui est assez raide, parce qu'autant ici on a une façade qui était la façade monument finalement, autant là-bas c'est l'arrière. Et le fait d'avoir un bâtiment qui est 4 vraies façades avec une porosité et une animation du rez-de-chaussée, peut-être une réponse, on va dire, de couture, quand on n'a pas une position dogmatique de « il faut tout préserver », qui peut être intéressante, qui reste un potentiel intéressant. Quoi. La possibilité, la marge. On est toujours dans la marge de manœuvre, en fait. Après, ici, le jeu dont tu parlais, Nicolas.
En gros, si vous préférez, vous avez une allée, l'allée du Bouffe, où il n'y avait que de l'hébergement. On va aller visiter celui-là, on va aller voir dedans. Mais en gros, vous avez une allée où il y avait l'hébergement d'urgence conventionné avec l'État, qui a duré un an, donc l'accueil de personnes à la rue avec des travailleurs sociaux sur site. C'est un projet qui a duré un an. L'État a déconventionné. Donc là, c'est la métropole qui récupère pour faire de la mise à l'abri de personnes qui sont dans des squats ou voilà, quand il y a des démantèlements de camps. Voilà. Vous avez cette autre allée-là où vous avez trois niveaux. Donc les trois niveaux du haut, c'est le CCAS de la ville de Grenoble qui les récupère et qui met aussi à l'abri des personnes qui étaient dans des squats. Le rez-de-chaussée étant, par convention, donné au collectif d'artistes pour de l'accueil d'artistes qui ont besoin d'être en résidence. Voilà, des artistes qui arrivent de Rouen pour 3 mois, ils vont venir pouvoir loger ici, créer, ils ont une contrepartie à donner, et voilà, donc, il y a ça. Ce L-là, il était prévu pour de l'économie sociale et solidaire, donc c'est un projet qui a du plomb dans l'aile, hein. Nicolas en a un petit peu parlé.
C'est une chose qu'on teste et qui marche pas forcément.
Voilà. Le L qui est là-bas, vous avez deux groupes. Vous avez le groupe avec le grand collectif qui est un rassemblement de 6 collectifs artistiques. Alors là, c'est aussi intéressant même au-delà de du côté urbain. En fait, c'était 6 compagnies artistiques qui travaillaient chacune de leur côté, mais qui se connaissaient. Et en fait, avec l'opportunité de venir ici, ils ont aussi appris à travailler ensemble. Et ça aussi, c'est chouette parce que eux, en fait, il y a l'impact sur le quartier, il y a d'être dans des locaux provisoires. Et il y a aussi le fait de dire qu'ils ont appris à travailler ensemble et ils se rendent compte que ça génère d'un point de vue projet culturel, ce qui est assez chouette.
Et qu'est-ce qu'ils font très concrètement ?
Concrètement, vous avez des musiciens, vous avez du cinéma, vous avez du spectacle vivant, vous avez pas mal de choses en fait. Voilà.
Avec des spécialités chacun, et ouais. Aussi mariables ou pas suivant les spectacles.
C'est ça. Et ils ont appris aussi à construire des choses ensemble, y compris que beaucoup de choses sur le quartier, avec les établissements scolaires et ça, et ou avec des habitants.
Avec la fête de quartier, des choses comme ça. Voilà. C'est vraiment un côté dans le...
ouais. Après, vous avez une autre allée, c'est un tiers-lieu, ça s'appelle le collectif voisin. C'est peut-être quelque chose qui fonctionne le moins bien parce que ça s'apparente peut-être trop à ce qui existe déjà au niveau de la MDH ou sur le quartier. Ça a plus de mal à prendre un petit peu sa place. Mais d'un autre côté, ils continuent à tester, à imaginer des choses et puis on verra la suite. Vous avez un autre bâtiment avec le projet Abri Jeune, là je vous en ai parlé, avec tous les jeunes migrants, là, de 18 à 25 ans. Vous avez un autre bâtiment où vous allez retrouver des services de la ville, donc la direction de territoire, le service des sports, donc qui était avant sur un autre bâtiment et qui ont migré ici. Nous, on a récupéré aussi des locaux où on teste aussi quelque chose sur du reconditionnement là, d'ordinateurs. Vous avez Unicité, pour ceux qui connaissent et ceux qui gèrent les services civiques. Donc ils ont aussi des locaux ici, de manière transitoire, parce qu'en fait, c'était trop à l'étroit où ils devaient partir d'un autre lieu. Donc typiquement, ça donnait tout de suite une porte de sortie. Et ce qui est chouette, parce que eux, en fait, il se passe des choses avec eux, avec les habitants, avec nous. Et nous, on a récupéré aussi des locaux, parce que des fois, on est un peu à l'étroit, et justement, en salle de réunion, pour essayer d'imaginer des choses. Et en fait, tout cet ensemble, l'idée, c'était aussi de se dire comment ils se coordonnent. Parce que l'enjeu, c'était que comment ils se coordonnent sur le lien avec le quartier, sur l'animation de la place. Et là, on a créé une instance qui s'appelle la Boussole, qui regroupe 3 collèges. Un premier collège avec tous les personnes présentes sur site. Un deuxième collège qu'on appelle le collège des garants. Alors ça, c'est la ville, la métro, le CCAS. C'est ceux qui sont garants d'état d'esprit. Il y a une charte qui régente tout ça. Et un troisième collège qu'on appelle les voisins. Donc vous avez retrouvé la MDH, la MJC, l'union de quartier, enfin... tous ceux qui veulent participer. Et on se retrouve ensemble toutes les 6 semaines pour discuter de ce qui se passe ici, de ce qu'il y a à faire ensemble et compagnie. Donc d'un point de vue philosophique, c'est super intéressant. Néanmoins, ça a du mal à prendre toute sa place. Et moi, ça, je l'explique sur un premier point. Alors bon, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Ça, c'est mon point de vue. C'est que sur un projet d'urbanisme transitoire, il doit être animé, surtout sur une échelle comme ça. Alors, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait beaucoup de monde. Quand tout est plein, vous avez 75 hébergés, vous avez une trentaine d'artistes, enfin, je veux dire, c'est quand même assez monstrueux. Et en fait, y a un enjeu d'animation et de lien entre toutes ces personnes. Donc la boussole est censée jouer ce rôle-là. C'était une préconisation de particules. qui, de par son expérience, disait il y a besoin de ce fonction animation.
Parce que les cellules chez les grands voisins, historiquement.
Ouais. Voilà. Et il n'y avait pas que la fonction animation, il y avait aussi la fonction de gérer un petit peu tous les soucis du quotidien.
Voilà. On a ramené plateau urbain
via votre.
Mais on n'est jamais, nous, techniciens, maîtres d'ouvrage, arrivés à faire prendre la décision aux élus, malgré l'aide à la décision très fortement soulignée.
Et votre capacité à monter des complots et à ourdir des virages politiques.
On a essayé de leur suggérer très fort de faire appel justement à cette capacité, on en parlait hier, cette capacité de gestion animation qui permet de par un tiers bienveillant finalement de faire monter la sauce. Et la position politique a été de dire que à Grenoble, on est assez fort pour savoir faire par nous-mêmes, par le milieu, et on sait surtout organiser avec une vieille tradition d'éducation populaire. Sauf qu'au final, c'est pas si simple.
Cette fonction animative, au final, elle est diluée entre plein d'acteurs. Voilà.
Il y a aussi comme enjeu, c'est de tirer les conclusions ou de tirer l'évaluation de ce qui se passe ici, qui est très très contextuel. Je veux dire, des opérations comme ça, à Grenoble, il n'y en aura pas d'autres. Ailleurs, il n'y en aura jamais pareil. On peut dire que c'est un petit grand voisin, mais ça ressemble à rien d'autre. Ça ressemble pas à Paris, ça ressemble pas non plus à une occupation dans un bâtiment. Donc, il y a des choses qui sont à tirer, des conclusions, lesquelles et avec quel degré de rayonnement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi des choses à se dire qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans d'autres opérations grenobloises ou métropolitaines. Par exemple, le fait d'avoir un appel à manifestation d'intérêt au début ou un AMO de gestion. Sur les modalités de mise en œuvre et pour que ça tourne, y compris pour laisser le champ des possibles tourner, quoi. Ça, je pense qu'il y a des vrais... Mais est-ce qu'on le fera? Je ne sais pas. Il y a un vrai bilan à tirer.